qu'ils ne soient pas seulement châtiés comme des chiens enragés, mais jugés avec le droit, jugés avec des preuves, jugés avec la conscience des hommes.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Nuremberg et Tokyo, comment a-t-on jugé les crimes de la Seconde Guerre mondiale? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historienne Annette Wiewiórka. Aujourd'hui, deuxième épisode, le déroulement du procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg, s'appuyant comme le veut le droit anglo-saxon sur la lecture de preuves écrites plus que sur des témoignages, rapidement, dans le tribunal, s'installe un sentiment d'ennui et de monotonie, accentué par la nécessité des traductions simultanées, une grande première dans un procès qui permet à tous, sous un casque, de suivre les débats dans sa langue, mais qui oblige aussi à parler lentement. Même les accusés, qui le savent avec ce procès, risquent la peine de mort, se mettent à somnoler. Mais il arrive aussi qu'ils éclatent de rire. Le 29 novembre 1945, suite à la lecture d'un document, il se passa quelque chose d'incroyable, raconte Joseph Kessel. Göring fut pris soudain d'un rire plein, entier, débridé, impossible à contenir, qui se propage alors dans tout le box des accusés. Ce rire, indécent et désastreux, décide le procureur Jackson à bousculer l'ordre du jour. Il ordonne dans l'heure la projection d'un film tourné par les Américains à l'ouverture des camps de concentration nazis. Des images terrifiantes et accablantes, bien connues aujourd'hui, mais qui, ce jour-là, dans le tribunal, vont marquer les esprits. Avec ce film qui sentait la mort, se souviendra Robert Jackson, l'enfer lui-même avait répandu son souffle sur le prétoire. C'était l'électrochoc dont le dossier d'accusation avait besoin. Les accusés en furent profondément découragés.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables. Nous avons appris le lendemain matin par les hommes qui travaillaient au Sonderkommando, le commando des gaz, que la veille, n'ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans les fournaises.
Autre moment fort du procès de Nuremberg, le 28 janvier 1946, le témoignage de Marie-Claude Vaillon-Couturier. Cette résistante française revenue de déportation, la première femme à s'exprimer à la barre, fait grande impression. Se présentant en combattante et non en victime, elle est la première à raconter en détail l'enfer d'Auschwitz-Birkenau au nom de tous ceux et de celles qui ne sont pas revenus, dit-elle. Lorsqu'au bout de 2 heures, elle quitte la barre, Marie-Claude Vaillant-Couturier longe le box des accusés et les fixe dans les yeux. Elle racontera plus tard « Je voulais voir de près comment pouvaient être des hommes capables d'avoir accompli un tel crime et je voulais en même temps qu'ils me voient et que c'était par mes yeux des millions de victimes, hommes, femmes et enfants, qui les voyaient et qui les jugeaient. » Mais les nazis et le premier d'entre eux, Hermann Göring, comptent bien encore se battre. Le 15 mars 1946, la parole est à la défense. Celui que tout le monde attend et redoute, Hermann Göring vient le premier à la barre. Devant une salle comble, cet orateur habile va parler pendant 3 jours, multipliant les mensonges, niant sa responsabilité dans les crimes, transformant sa déposition en tribune pour sa propre postérité et celle du national-socialisme. Göring, qui sait qu'il va être condamné à mort et qu'il joue là sa dernière carte, est si habile et sûr de lui qu'il réussit à mettre hors de lui le procureur Jackson.
En tant que ministre-président de Prusse et ministre de l'Intérieur,
faisons l'impasse là-dessus, ce n'est pas ma question. Contentez-vous de me répondre, on gagnera du temps. Votre avocat pourra fournir toutes les explications que vous voulez.
Le procureur britannique Sir David Maxwell Fife aura plus de succès quand il lui rappellera l'exécution sommaire de 50 prisonniers de la Royal Air Force, attaquant directement son honneur de soldat qui, prétendait Göring, lui tenait très à cœur. Annette Wiewiórka, on a l'impression que ce procès de Nuremberg alterne de longues phases de monotonie, d'ennui. C'est le travail des juristes qui veut cela. Et puis des moments plus dramatiques. Beaucoup de journalistes sont partis d'ailleurs assez vite du procès. Marie-Claude Vaillant-Couturier elle-même se plaignait de la lenteur du procès.
Oui, effectivement.
On est dans l'antithéâtre.
Effectivement, Jackson, le procureur, a décidé que ce procès ne serait pas un procès spectacle, mais que ce serait un procès fondé sur des documents. Donc le procès, c'est des longues lectures de documents, vous l'avez dit, avec en plus la traduction simultanée, c'est très long, c'est très monotone, c'est très ennuyeux. Et il y a quelques moments, les moments qu'on reprend tous, c'est le film du 29 novembre, Concentration Camps, qui est en fait un film de montage de films pris par les Alliés lors de l'ouverture des camps.
Et qui des camps de concentration.
Des camps de concentration, et qui est difficilement regardable, même si maintenant on connaît beaucoup de ces images. C'est ensuite le témoignage de Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui a de plus été filmé, pas en totalité, mais en partie.
C'est très
et
fort,
qui
hein,
fait
c'est...
partie des très rares témoins victimes. Parce que les témoins qui sont appelés à la barre, à la fois par l'accusation et par la défense, ce sont des témoins que j'appellerais documentaires. C'est-à-dire qu'ils sont là pour expliquer, pour permettre de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est juste le procureur adjoint français, qui s'appelait Charles Dubost, qui lui décide de faire témoigner 8 personnes qui sont des survivants des camps de concentration. Un Espagnol, Boix, qui est connu parce qu'il a photographié à Mauthausen, et pour Auschwitz, et c'est un choix qui peut interroger, il choisit Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui est en quelque sorte une exception dans la déportation à Auschwitz, puisqu'elle a fait partie de ce petit convoi de 230 femmes que l'on connaît très bien parce que la grande écrivaine Charlotte Delbo a écrit Le convoi du 24 janvier 1943, et qui est un convoi qui est composé pour moitié de résistantes, et beaucoup d'ailleurs de veuves, puisque les maris ont été fusillés au Mont-Valérien, de communistes.
Donc il n'y a pas de juifs qui vont témoigner
à Nuremberg, sauf à la fin du procès, dans l'accusation soviétique, où il y a notamment le grand poète yiddish Avroum Souskever. Et le témoignage de Marie-Claude Vaillant-Couturier est un témoignage qui n'est pas un témoignage de victime, comme vous l'avez dit. Et puis, il y a quelques moments forts, où d'ailleurs les journalistes reviennent, et par exemple, le contre-interrogatoire de Göring par Jackson, où il met Jackson en difficulté. Göring, c'est le seul des 21 accusés présents à la barre à assumer ce qu'a été le nazisme, à ne pas être effondré, à ne pas être contraint. Et il suscite d'ailleurs une forme de, j'ai presque envie de sympathie chez les juges.
Une séduction.
Voilà. Et le juge Falco, le juge adjoint français, dit « On a examiné d'abord le cas de Göring et la gorge serrée, à l'unanimité, on l'a condamné à mort. »
La gorge serrée.
La gorge serrée, parce que il y avait son intelligence, mais ce qui a aussi terni, vous l'avez dit, le fait que des soldats aient été exécutés, mais c'est aussi le détail de son appétit artistique et le détail de son pillage des œuvres d'art.
Des musées,
Et là, ça l'a mis en difficulté avec ses co-détenus. Quand ils ont vu l'ampleur de ce qu'avait pillé Göring.
En ce qui concerne les crimes contre l'humanité, c'est la première fois que ce type de crime est évoqué dans un procès ?
Absolument. C'est vraiment la novation juridique avec le crime contre la paix du procès. Et la définition du crime contre l'humanité a été assez laborieuse. On dit qu'il y a eu 15 versions. Et le crime contre l'humanité recouvre beaucoup les crimes de guerre, mais la différence, c'est que on montre bien qu'il y a une volonté de désigner un certain nombre de personnes comme devant être assassinées. Donc ça recouvre quand même très largement le génocide des Juifs, le terme de génocide étant pratiquement peu usité, pas usité dans le procès, je crois, 5 ou 6 fois. C'est un mot, un concept qui vient d'être inventé par un juriste qui s'appelle Raphaël Lemkin et peu présent. Il n'est pas dans les qualifications juridiques de Nuremberg, mais très très vite, dès 48, il va aussi rentrer dans le droit international.
Merci à Navier Viorca. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la déposition de Rudolf Höss sur le camp d'extermination d'Auschwitz qui va faire basculer le procès de Nuremberg et du verdict final.